Calade.
Calade.
Ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Auditeurs et auditrices de Calade Ma Radio, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'heure de notre chronique Nuances du Monde. Et vous en aurez deux pour le prix d'une, puisque je suis en compagnie de Geneviève.
Et Geneviève est en compagnie d'Emma.
Alors, de quoi on va parler, Geneviève, aujourd'hui ?
Ah, bah écoute, on va renouer un petit peu avec les chroniques de portraits de femmes. Mais cette fois-ci, on va plutôt évoquer une femme très connue, voire même clairement auréolée de scandales et de sulfures, hein, puisque aujourd'hui, on va parler d'une lyonnaise transfuge, Virginie Despentes. Alors pourquoi transfuge ? Parce qu'elle n'est pas du tout lyonnaise, même si son nom choisi de plume, Despentes est une référence aux pentes de la Croix-Rousse.
Où elle a vécu quand même.
Où elle a vécu et passé de belles années denses et riches. Et donc Virginie Despentes, eh bien, c'est une femme de la littérature d'aujourd'hui. Elle est née en 1969 à Nancy. Elle est romancière, elle est réalisatrice, elle est essayiste. Elle restitue dans ses livres ses expériences parfois très difficiles qui l'influencent profondément. Et c'est quelque part des romans qu'on peut souhaiter comme lecture aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour réfléchir à toutes ces questions qui traversent notre société. Alors parmi ces romans les plus connus, évidemment « Baise-moi ». Qui est son premier paru en 99, où elle aborde des thèmes extrêmement provocateurs. Les chaînes savantes, 2001, Apocalypse béton, et puis le Vernon subutexte, qui est clairement le livre qui m'a fait découvrir Virginie Despentes, paru en 2015, une trilogie absolument incroyable où elle aborde la vie d'un disquaire à la dérive. Voilà. Et puis elle a publié aussi en 2006... Je te laisse prendre la suite.
Et ben, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire King Kong Theory. Et ça commence comme ça. J'étais de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et comme je commence par là, pour que les choses soient claires, je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Alors bon, bah, ça nous pose le personnage un peu. Hein. Je vais ajouter encore un petit passage qui va nous donner les bases de ce livre, qui est en fait une sorte d'essai, enfin un essai en fait, on peut le dire, hein, qui traite de féminisme, mais pas seulement. Alors voilà ce qu'elle dit. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus sympathique. Elle m'est essentielle. Mais plus que sympathique, pardon. Elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même, et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Et justement, Geneviève, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi ce livre s'appelle King Kong Theory.
Oui, parce que là, je ne sais pas ce que vous en pensez derrière votre radio ou autoradio du matin. Concrètement, pourquoi King Kong ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle fait référence, elle utilise pardon, ce personnage bien connu, hein, cette bête finalement qui est montrée comme écrasant tout sur son passage, comme étant une métaphore forte de la... De ce célèbre gorille géant, cette métaphore qui évoque la puissance, la force brute, la rébellion. Et elle utilise cette figure pour remettre en question les stéréotypes qui sont associés à la féminité. C'est-à-dire qu'en fait, cette belle...
La jeune fille, en fait, hein, c'est ça.
Alors, King Kong, ici, je cite hein, le livre, fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres telle qu'imposée politiquement autour de la fin du 19e. King Kong est au-delà de la femelle, au-delà du mâle. Il est la charnière entre l'homme et l'animal, l'adulte et l'enfant, le bon et le méchant, le primitif et le civilisé, le blanc et le noir, hybride, avant l'obligation du binaire. L'île de ce film est la possibilité d'une forme de sexualité polymorphe et hyperpuissante, ce que le cinéma veut capturer, exhiber, dénaturer, puis exterminer. Et c'est bien par rapport à ça que Virginie Despentes se positionne. En fait, elle fait de King Kong, cette bête enchaînée, exhibée, le symbole de toutes ces violences qui sont, quelque part, on pourrait résumer en disant oui, c'est un combat féministe, mais pas du tout en fait. Tout le monde est concerné.
Tout le monde est concerné, on va le voir juste après.
Et cette féminité forte qu'elle revendique, loin des normes qui limitent les femmes à des rôles passifs ou fragiles, représentatifs quelque part de la virilisation de la société qui ramène la femme à juste un rôle de gentille, belle, blonde et tais-toi.
Tout à fait.
Et donc, au contraire, elle réaffirme ce besoin des femmes à être en colère face à ces injustices, à affirmer ses émotions légitimes, nécessaires, et à se battre. Et en cela, elle est un véritable porte-parole. Et en tout cas, elle incite à une réflexion propre. Et c'est en cela que ce livre est majeur et essentiel à tout lecteur.
Et tout à fait. Elle revendique sa virilité, par ailleurs, hein, Virginie Despentes. Elle dit que...
Au-delà de virus, en fait, du latin, en fait, elle revendique cette force.
C'est ça, exactement.
Féminine et masculine.
Et masculine, tout à fait. Alors... on va un petit peu parler du deuxième chapitre que j'ai trouvé intéressant, justement sur le fait que certains hommes pensent que les combats féministes, c'est que pour les femmes. Et voilà ce qu'ils disent. Alors, ce deuxième chapitre, hein, c'est du Despentes, il est intitulé « Je t'encule ou tu m'encules ?» Voilà ce qu'elle y dit. « Depuis quelque temps en France, on n'arrête plus de se faire engueuler, rapport aux années 70. Et qu'on a fait fausse route, et qu'est-ce qu'on a foutu avec la révolution sexuelle, et qu'on se prend pour des hommes ou quoi, et qu'avec nos conneries, on se demande où est passée la bonne vieille virilité, celle du papa ou du grand-père, ces hommes qui savaient mourir à la guerre et conduire un foyer avec une saine autorité. Et la loi derrière lui. On se fait engueuler, parce que les hommes ont peur. Comme si on y était pour quelque chose. C'est tout de même épatant, et pour le moins moderne, un dominant qui vient chialer que le dominé n'y met pas assez du sien. » Donc là, vous voyez qu'elle s'en prend un petit peu aux hommes qui critiquent le féminisme. Et ce qui est intéressant, peut-être que c'est un peu consternant, c'est que le discours n'a pas bien changé. Hein. On a dit que le livre avait été publié en 2006. On est en 2025, on entend un petit peu les mêmes choses. Et pourtant, regardez ce qu'elle dit. Elle démontre bien qu'en fait, le féminisme, c'est aussi pour les hommes. Je vous lis un autre passage. Qu'est-ce que ça exige, au juste, être un homme, un vrai ? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter l'enfance brutalement et définitivement. Les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé par la taille de sa bite, savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensualité, s'habiller dans les couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas porter trop de bijoux, ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide, devoir être courageux, même si on n'a aucune envie. Valoriser la force, quel que soit son caractère, faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité, car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré. Ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter des petites voitures et d'armes en plastique super moches. Ne pas prendre trop soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre. Savoir se défendre, même si on est doux. Être coupé de sa féminité, symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité, non pas en fonction des besoins d'une situation ou d'un caractère, mais en fonction de ce que le corps collectif exige. Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de 3 ou 4 crétins à vue courte. Il me semble que voilà, tout est dit et qu'il s'agit bien ici de montrer que le féminisme, c'est... autant pour les hommes que pour les femmes, il s'agit juste de rééquilibrer les choses.
Hein ? Avec une vraie portée historique.
Tout à fait. Alors, dans cet essai, elle raconte aussi son viol à 17 ans par 3 hommes et comment les violeurs justifient leurs actes, comment ils se persuadent que c'est la fille qui l'a cherchée et comment la société peut produire ce genre d'aberration. Alors, je retrouve mon passage, pardon. Elle dit, alors elle parle de son propre viol. Hein. Les premières années, après le viol, surprise pénible. Les livres ne pourront rien pour moi. Ça ne m'était jamais arrivé. Quand par exemple, en 1984, je suis internée quelques mois, ma première réaction en sortant a été de lire Le pavillon des enfants fous, vol au-dessus d'un nid de coucou, quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée, et les essais sur la psychiatrie, l'internement, la surveillance, l'adolescence. Les livres étaient là, tenaient compagnie, rendaient la chose possible, dissible, partageable. Prison, maladie, maltraitance, drogue, abandon, déportation. Tous ces traumas ont leur littérature. Mais ce trauma crucial, fondamental, définition première de la féminité, celle qu'on peut prendre par effraction et qui doit rester sans défense, ce trauma-là n'entrait pas en littérature. Et Geneviève, alors tu veux compléter sur justement la...
Alors, il n'entre pas en littérature française.
Oui.
En revanche, elle explique que... Alors, sans tout dévoiler, on est bien d'accord, parce que l'idée, vous l'avez compris, c'est quand même que vous ayez envie d'aller lire ce livre par vous-même et de vous faire votre propre opinion. Néanmoins, elle fait allusion à un passage, et je dirais que c'est vraiment, pour moi, le passage que je retiens de ce livre King Kong Theory et qui m'a vraiment marqué, auquel je pense régulièrement, et que j'aimerais adresser... à tous,
et point
T-E-S.
Très bien.
Voilà, et c'est ce passage où elle explique que, en fait, au sujet du viol, on parle d'un risque inévitable. Et ça, je ne sais pas si tout le monde en a bien conscience, mais clairement, en fait, une femme qui sort, une femme qui vit, en fait, vit avec cette épée de Damoclès.
Le risque d'être violée.
Voilà, au-dessus de sa tête. C'est un risque, évidemment. Je cite, c'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, justement, n'aie pas honte, remets-toi debout. Dust yourself et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Voilà, ça c'est le témoignage d'une femme debout.
Oui.
Et ça pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce livre et quelque part ce qu'on devrait probablement inculquer à tous et à chacun. Restons debout.
Tout à fait. Alors je termine par un petit passage qui va dans le sens de ce que tu dis, de ce que tu as dit. Toujours quand elle parle de son viol, hein. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un, qu'elle parle des hommes qui l'ont violée. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Il me semble que la Virginie Despentes pose quelque chose d'essentiel. Alors on vous laissera découvrir ce livre, elle parle aussi de la prostitution, de la pornographie, on peut être d'accord ou pas, mais ça n'empêche que c'est intéressant d'avoir cet avis-là.
Elle présente son parcours en tout cas dans ce livre,
voilà,
et à aucun moment elle ne le fait dans une volonté de prosélytisme, hein.
Oui, c'est-à-dire absolument.
Qu'en fait, elle, bien au contraire,
oui.
Si quelque part, à travers ce qu'on a pu vous expliquer, on pourrait se dire, bah tiens, c'est un porte-parole, donc elle pense pour moi, c'est bien précisément tout le contraire.
Tout à fait l'inverse.
Elle propose un chemin de vie qui est le sien, mais elle ne le pose pas en norme, et au contraire,
elle incite part, chacune à avoir son propre chemin de vie.
Son propre chemin, voilà, au-delà des normes et au-delà des convenances.
Eh bien, lisez King Kong Théorie de Virginie Despentes.
Bonne lecture.
Prenons le temps d'en parler. Prenons le temps d'écouter. Calade, ma radio.